I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 6 décembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Je vais commencer cet épisode en vous rassurant. Vous écoutez toujours La Loupe, votre podcast de décryptage de l'actualité, avec toute l'expertise de nos journalistes. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on va parler de régime. Alors, je vous vois vous dire que normalement, c'est pas tout à fait notre créneau. Alors non, on va pas vous conseiller de jeter votre calendrier de l'Avent ou vous dire de faire une cure de légumes verts à l'approche des fêtes. Car dans cet épisode, ce ne sont pas les humains qui doivent se mettre au régime, mais les entreprises. Leur but, c'est pas de peser moins de kilos, mais moins de tonnes équivalent carbone. Si vous me suivez bien, vous avez compris que la diète dont il est question est climatique. Et je n'ai pas choisi la métaphore diététique par hasard. En termes de neutralité carbone, comme de régime, il y a souvent un décalage entre les objectifs affichés et les actes. On parle de transition climatique, il y a donc assez peu de mystère sur l'identité de notre diététicien du jour. Salut Lucas.
Salut Xavier.
Lucas Mediavilla du service économie de l'Express. Alors, tu n'es pas du tout diététicien, mais journaliste spécialiste de l'environnement. Tu as suivi de près la COP26 qui s'est terminée il y a quelques semaines à Glasgow.
We are in roughly the same position, my fellow global leaders, as James Bond today. Except that the tragedy is, this is not a movie.
À l'ouverture de cette COP, le Premier ministre britannique Boris Johnson a prévenu, c'est comme dans un James Bond, l'humanité est engagée dans une course contre la montre, sauf que ça n'est pas un film. Beaucoup d'États et surtout beaucoup d'entreprises y ont promis de se mettre au régime, Lucas.
Oui, c'est un peu la particularité de ce genre d'événements internationaux, c'est qu'il y a tout le monde qui se met un peu au diapason sur les annonces. Et c'est vrai qu'on a eu à l'occasion de ce rendez-vous-là des États, mais aussi beaucoup d'entreprises qui ont soit annoncé des objectifs de neutralité carbone, soit renforcé leurs objectifs. Et il y a une ONG qui s'appelle Net Zero Tracker qui a recensé finalement les différents objectifs qui ont été faits pendant la COP26. Et elle a recensé qu'en gros, il y avait 136 États et 641 entreprises qui représentaient à elles toutes 90% du produit intérieur brut mondiale qui sont désormais engagés vers la neutralité carbone au milieu du siècle environ.
L'objectif du régime est donc connu, c'est la neutralité carbone. Lucas, tu peux nous dire de quoi il s'agit exactement ?
C'est assez simple. La neutralité carbone, c'est pour un État ou pour le monde entier s'engager à ne pas émettre plus de CO2 que la capacité des puits de carbone, que ce sont les forêts ou les sols, ont à absorber CO2.
Voilà, c'est bon. Je range ça dans l'armoire à définition de La Loupe, je pense que ça va nous servir. Merci Lucas. On sait donc que les États et les entreprises représentant 90% du produit intérieur brut mondial veulent atteindre ce but. Elles ont aussi accepté une échéance, 2050. Alors où est-ce que ça coince ?
Dans tout régime, si je reprends ton analogie, il faut connaître le poids de départ et disposer en fait d'une balance fiable pour mesurer à chaque fois les efforts que tu fais et ceux qui restent à produire. Si toi demain tu entames un régime, je sais pas quel poids tu
j'ai une balance qui n'est pas fiable, donc je peux pas te dire.
D'accord, bon, on va partir sur 75 kilos. Si le lundi ta balance indique 75 kilos et le lendemain elle indique 90 kilos, finalement tu vas être complètement perdu dans ton régime. C'est un peu ce qui se passe pour les entreprises aujourd'hui, c'est que on a cette problématique de mesurer les émissions de CO2, donc leur poids qu'elles ont sur la pollution mondiale en fait.
On touche donc du doigt un premier problème et il est d'ordre matériel. Pour mettre les entreprises au régime, il faut une balance qui fonctionne.
L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Au-dessus de 25, c'est une situation de surpoids et au-dessus de 30, c'est une situation d'obésité.
Lucas, ma question est simple. Est-ce qu'il existe des unités et des outils à la disposition des entreprises pour mesurer ou, dans ce cas-là, peser leurs émissions de carbone et est-ce qu'ils sont fiables ?
Oui, effectivement, il y a des outils de mesure qui existent depuis déjà plusieurs décennies, notamment, bah, par exemple, en France, tu as ce qu'on appelle la méthodologie bilan carbone, qui est développée depuis déjà plusieurs années par l'association Bilan Carbone d'un côté et l'ADEME de l'autre, donc l'ADEME qui est l'agence de la transition du ministère de l'écologie. Donc ça, c'est au niveau français. Et au niveau mondial, en fait, plus récemment, tu as eu une création d'un protocole mondial pour harmoniser finalement les méthodes de calcul. Ce protocole, il s'appelle le GHG protocole, donc il permet d'harmoniser les méthodologies, mais aussi de faire communiquer les bilan carbone des entreprises au niveau mondial.
Si on s'arrête sur la France, comment marche la méthodologie française pour calculer le bilan carbone ?
Alors, la grande règle pour calculer ces émissions de CO2, enfin pour une entreprise, c'est qu'on va distinguer trois scopes, ce qu'on appelle des scopes, sont trois périmètres, trois grands périmètres pour calculer les émissions de CO2.
Trois périmètres, trois scopes. Pour bien comprendre, on va prendre l'exemple d'une entreprise fictive. Au hasard, la Loop Corporation, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est le plus grand producteur de podcasts de France. J'ai dit que c'était fictif. Je suis le patron. Je veux mettre ma société au régime. Comment, Lucas, je calcule mon scope 1 ?
Le scope 1, Xavier, c'est très simple, c'est l'ensemble des énergies fossiles que tu vas utiliser dans le cadre de ton activité. C'est-à-dire que demain, si tu veux enregistrer un épisode de La Loupe à Marseille ou à Nice, tu vas probablement prendre ta voiture ou peut-être l'avion. Mm-hmm. Mais les émissions de gaz à effet de serre liées à ce trajet-là, ce sont tes émissions de scope 1. Pour toi, c'est pas forcément grand-chose. Parce que
pour l'instant, c'est pas énorme.
Voilà. Mais pour une entreprise, typiquement, je sais pas, un constructeur automobile comme Renault, par exemple, c'est beaucoup plus important parce que Renault, pour construire des véhicules, va utiliser des chaudières, des fours, des turbines et tout ça, ça produit des émissions de CO2. Donc ça, c'est son scope 1.
D'accord, le scope 1, c'est assez simple. Pour nous, la Loop Corporation, le régime s'annonce pas trop compliqué. Comment je calcule maintenant mon scope 2 ?
Le scope 2, c'est déjà plus important, je pense, pour la Loop Corporation, c'est les émissions qui sont liées à la consommation d'électricité ou de chauffage, de ventilation que tu vas utiliser pour produire tes émissions. Donc là, par exemple, je vois que il y a des ordinateurs, les micros qui sont branchés au réseau électrique, donc tout ça, ça consomme même l'éclairage que tu me montres. Mm-hmm. Sont des
le chauffage.
Le chauffage aussi. Donc ça, ça va consommer de l'électricité. Cette électricité-là, pour la produire, on va émettre du CO2. En France, ça va parce que la production électrique, elle est largement décarbonée, mais dans des pays comme la Chine, par exemple, où il y a encore beaucoup de charbon pour produire l'électricité, ben ton scope 2, déjà, il va être beaucoup plus important.
D'accord, donc si jamais on se met à faire des podcasts en Chine, il va falloir faire un calcul plus compliqué. Il reste le scope 3.
Oui, et ça, pour le coup, ce sont les émissions qui sont beaucoup plus compliquées à comptabiliser. Ça, c'est les émissions de scope 3, ce sont les émissions qui sont indirectes dans toute ta chaîne de valeur. Donc, pour pas perdre un peu les auditeurs, je vais les scinder en deux grandes catégories. Il y a les émissions indirectes en amont et en aval. En amont, ben là, si je suis dans le studio de la Loop, je vois qu'il y a une table de mixage et le micro dans lequel je parle. En fait, pour produire tous ces objets-là, il y a bien dû avoir des émissions de CO2 qui ont été produites. Donc ça, ce sont des émissions de scope 3.
D'accord, donc si je prends par exemple le micro moi, dans lequel moi je parle, il y a marqué « Made in Mexico », donc je dois prendre en compte les émissions de l'usine qui a fabriqué ce micro.
C'est exactement ça. Donc, tu prends en compte toutes les émissions qui ont été générées en amont de ton activité. Et donc, ensuite, il y a la partie aval. Donc, ça va être l'utilisation du produit que tu fais.
Donc, les podcasts.
Voilà, ton produit, toi, c'est un podcast que tu proposes sur toutes les plateformes d'écoute. et en fait, l'utilisateur, avec son smartphone ou depuis son ordinateur, il va, pour écouter ton podcast, il va générer de la data parce que ça va consommer des gigaoctets sur Internet. Et cette data, là, pour la produire, il faut de l'électricité. Donc là encore, ça émet du CO2. Et ça, ce sont les émissions en aval aussi indirectes.
Donc si je te suis bien, les émissions de scope 3, en fait, elles sont comptabilisées plusieurs fois.
Oui, et en fait, c'est un peu le but. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise, elle évolue pas dans un vase clos. Elle a des fournisseurs en amont, des clients en aval. Et si elle veut avoir un vrai impact positif sur la réduction des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il faut non seulement qu'elle s'assure que ses fournisseurs produisent ces équipements qu'elle va acheter de façon beaucoup plus verte, mais aussi que ses clients en bout de chaîne, finalement, fassent un usage vertueux des produits qu'elle vend. Et d'ailleurs, si je reprends l'exemple du constructeur automobile, les émissions de scope 1 et 2, c'est-à-dire pour la production stricto sensu des véhicules ou pour la consommation électrique de ces usines, c'est pas énorme. En revanche, les émissions de scope 3, c'est-à-dire l'essence qui va être consommée par les véhicules qu'elle vend, ça, c'est 80% de ses émissions de CO2, de son empreinte carbone. Donc, c'est majeur.
C'est majeur et c'est pour ça qu'on compte, si j'ai bien compris, ces émissions de scope 3 pour pousser les entreprises à avoir une action là-dessus.
Ouais, tout à fait. Si je reprends l'exemple du constructeur automobile, si demain il commence à développer, je sais pas, des bornes de recharge pour véhicules électriques ou si il travaille au développement de la mobilité partagée pour que, au lieu qu'il y ait sur un trajet une personne pour une voiture, il y ait trois personnes dans la même voiture, ça réduit les émissions de gaz à effet de serre. Donc, une entreprise, elle a aussi bien de responsabilité sur ses propres émissions que sur celles dans l'ensemble de sa chaîne de valeur.
OK. Donc, la balance existe. Elle permet de peser le poids global des émissions de chaque entreprise, donc de ses émissions les plus directes aux plus indirectes, peu importe ce qu'elle produit, donc par exemple des podcasts. On n'a pas tous Lucas Mediavilla sous la main pour jouer le consultant en bilan carbone. C'est très complexe, on vient de le voir. Est-ce que les entreprises arrivent à suivre ?
Pour le moment, c'est très difficile pour elles aussi. Il y a une étude du Boston Consulting Group qui est sortie récemment qui explique que 9 entreprises sur 10 ne savent pas calculer leurs émissions de CO2. Et le pire, c'est que quand elles s'y essayent, il y a une marge énorme entre ce qu'elles vont calculer et ce que, par exemple, le BCG, quand ils ont travaillé avec eux, ils ont calculé de leur côté. Il y a notamment une experte du BCG que j'ai pu interrogé récemment, qui m'expliquait qu'ils avaient fait le bilan carbone d'une entreprise de vin et spiritueux. Et en fait, pour calculer l'empreinte carbone du verre qui était utilisé pour la production des bouteilles, ils ont challengé finalement ce qui avait été donné comme chiffre par l'entreprise et ce que le BCG a calculé. Il y avait un écart de 45% entre les deux niveaux.
Cette erreur assez énorme, elle était due à une mauvaise foi ou une mauvaise utilisation de notre fameuse balance qu'on décrit depuis tout à l'heure ?
Non, pour le coup, je pense que c'est plutôt une question de culture à acquérir. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de l'entreprise de vin et spiritueux, pour calculer l'empreinte carbone du verre qu'ils utilisaient pour la production des bouteilles, ils faisaient comme si ce verre venait d'un seul pays pour lequel ils avaient calculé une consommation électrique moyenne avec les émissions de CO2 qui étaient produites avec cette électricité-là. Or, le verre, l'entreprise, elle s'approvisionnait aussi bien, je sais pas, de Chine, d'Amérique du Sud. Sauf que pour produire le verre dans ces pays-là, tu vas émettre beaucoup plus de CO2 par exemple en Chine quand tu produis du verre que quand tu produis en France du verre, parce que la production électrique, elle est beaucoup plus carbonée en Chine qu'en Europe.
Et il y a beaucoup d'autres erreurs de ce type ?
Oui, d'ailleurs, je peux prendre aussi l'exemple de l'industrie pétro-gazière. Il y a quelque temps, je t'avais parlé d'une start-up française qui s'appelle Kéros, qui traque les fuites de méthane à partir d'images satellites. Mm-hmm. Et en fait, ce que m'expliquait cette start-up-là, c'est qu'entre ce qui est annoncé par les entreprises du secteur pétro-gazier sur leurs émissions de CO2 et de méthane, il y avait parfois un écart de 1 à 10 entre ce que pouvait observer la start-up Kéros depuis ses satellites et ce qu'annonçait l'entreprise. Mm. Donc c'est énorme.
Donc quand on calcule mal son poids de départ, difficile d'imaginer atteindre les objectifs de son régime, encore faut-il s'en fixer.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bon, Lucas, je te propose qu'on mette sur pause notre métaphore. On force personne à faire un régime et c'est tant mieux. Mais en ce qui concerne le réchauffement climatique, il y a urgence. Pourrait-on imaginer une réglementation qui impose aux entreprises de mesurer leurs émissions ?
Oui, de mesurer et de les reporter, c'est-à-dire de les communiquer de façon publique. Aujourd'hui, au niveau mondial, une telle réglementation, elle n'existe pas. Il n'y a qu'en France, finalement, qu'on oblige les entreprises de plus de 500 salariés à communiquer leurs émissions de CO2 sur l'ensemble des 3 scopes. Dans les autres pays, c'est souvent scope 1 et scope 2. Et d'ailleurs, si on prend le Net Zero Tracker dont je t'ai parlé au tout début de ce podcast, si on regarde un peu plus en détail les promesses de neutralité carbone des grandes entreprises, la grande majorité d'entre elles, en fait, si je prends l'exemple de Walmart, par exemple, ou de PetroChina, ou de Toyota, elles annoncent une neutralité carbone sans se prononcer sur Scope 3. Si on en parle aux consultants qui sont spécialisés un peu dans cet univers-là, ils expliquent qu'annoncer un objectif de réduction d'émissions de CO2 sans évoquer le Scope 3, c'est purement du greenwashing.
Tu nous dis que la France est le seul pays à imposer le calcul complet des émissions.
Oui, c'est ça, pour les entreprises de plus de 500 salariés. Mais attention, parce que c'est loin d'être un élève modèle. Selon les calculs de l'association Bilan Carbone qui a développé la méthodologie du bilan carbone, il n'y a que 30% des entreprises qui sont en conformité sur le reporting de ces 3 scopes.
Et comment ça s'explique ?
En fait, c'est tout simplement parce que l'amende pour non-divulgation de ces informations-là, elle est guère dissuasive. Jusqu'en 2019, elle était de 1 500 euros. Et là, depuis la nouvelle loi, elle est passée à 10 000 euros. Mais pour un énorme groupe, tu comprends
comme
bien.
Comme la Loop Corporation, par exemple.
Exactement, tu comprends bien. Enfin, peut-être que pour la Loop Corporation, ça serait un budget. Mais pour une très grosse entreprise, c'est pas vraiment un budget important.
Il y a donc un cadre légal à mettre en place. Ça, c'est une première solution pour une vraie mesure des émissions des entreprises. Mais il reste un obstacle. Comment on fait pour qu'elles ne commettent plus les erreurs dont tu nous as parlé tout à l'heure?
On les accompagne. Tout à l'heure, je t'ai parlé du GHG protocole. Typiquement, sur les émissions de Scope 3, il fixe une méthodologie avec 15 éléments donc pour calculer à la fois les émissions, je te dis, des fournisseurs, de tout de ce que tu vas acheter, aussi en aval sur l'utilisation des produits vendus et autres. Et donc, en fait, il y a déjà beaucoup d'entreprises qui existent, de cabinets de consultants qui proposent aux entreprises leurs services pour mieux calculer leurs émissions de CO2. Donc ça, ça existe depuis déjà des années. Mais aujourd'hui, ce qui va arriver avec la technologie, on va avoir plusieurs outils pour mesurer encore plus efficacement les émissions de CO2. J'ai parlé de Kairos, ça va être une solution demain pour traquer les émissions des gros pollueurs, c'est-à-dire qu'avec des images satellites, on va calculer la quantité de CO2 qui est rejetée dans l'atmosphère. Et aussi au niveau des entreprises qui sont pas forcément des gros pollueurs, mais qui ont des gros scope 3, donc par exemple des entreprises de services, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir récolter des données plus fines et on va pouvoir fiabiliser finalement tout le processus de comptabilité des émissions de CO2. Donc c'est des motifs d'espoir assez intéressants, ouais.
Est-ce que ça veut dire qu'on peut aujourd'hui espérer sortir du grand flou dans lequel on se trouve aujourd'hui?
Oui, et déjà les entreprises qui vont disposer de données plus fiables pour mesurer leurs émissions de CO2 et donc pour piloter les stratégies de réduction de leurs émissions. C'est aussi finalement un outil qui va permettre aux citoyens et aux États de contrôler les engagements et mettre les entreprises face à leurs promesses. Et le troisième élément, c'est que ces outils-là, ils ne sont pas utilisés que par les États, les citoyens et les entreprises, ils sont utilisés aussi par les investisseurs qui investissent dans les entreprises. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent détourner finalement l'argent des énergies fossiles et des énergies carbonées. On en a déjà parlé aussi dans un précédent podcast. Aujourd'hui, ces investisseurs-là, ils ont besoin de données fiables, de données sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour avoir une meilleure décision dans les secteurs dans lesquels ils vont aller investir.
Oui, le poids de certains acteurs du monde de la finance sur les groupes dans lesquels ils choisissent d'investir, c'est un sujet qui commence à vous parler si vous êtes un auditeur fidèle de La Loupe et qu'on continuera à explorer avec toi, Lucas. Merci beaucoup.
Pas de quoi.
Lucas Mediavilla du service économie de l'Express. Tous tes articles, dont cette enquête sur le grand bluff des émissions de CO2, sont à retrouver sur le site de l'Express. Vous pouvez aussi y retrouver nos podcasts, mais pour être sûr de n'en rater aucun, le plus simple, c'est de vous abonner sur la plateforme de votre choix, Deezer, Apple Podcasts ou Spotify par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Margot Lanuzel, Mathias Pengili, Lison Verrier, Alice Ninin. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.